et bienvenue dans La Voix est libre, l'émission de l'association Picassoft, une association compiénoise d'éducation populaire qui s'est donnée pour mission de sensibiliser aux enjeux du numérique et de la culture libre et aussi d'héberger des services web alternatifs et libres. Je suis Audrey Guélou et je suis aujourd'hui en studio avec notre invité Xavier Guchet. Bonjour Xavier.
Bonjour Audrey.
Et je suis aussi avec Stéphane Croza aux commandes toujours de la préparation et de l'animation de cette seconde émission spéciale Philo des techniques. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour la seconde partie de notre série d'émissions consacrée à l'ouvrage « Du soin dans la technique, questions philosophiques » de Xavier Guchet, professeur de philosophie et d'éthique des techniques à l'UTC. Alors lors de la première émission consacrée à ce livre « Du soin dans la technique » qui est paru en janvier 2022 aux éditions ISTE, Xavier nous a présenté donc des concepts structurants fondamentaux de son ouvrage et on peut rappeler rapidement ce début de seconde émission, en particulier trois éléments saillants pour essayer de résumer rapidement une première partie. Donc, alors le fait que la technique ne soit pas neutre, qu'elle embarque des valeurs qui sont alors en partie le résultat d'intentions des concepteurs, et puis aussi d'une technique qui va reconfigurer aussi les milieux, qui va reconfigurer des cadres moraux et puis des rapports de force en modifiant nos pratiques, en modifiant nos représentations. On a parlé de tout cela, on a parlé de l'agentivité de la technique plutôt que de sa neutralité. Donc on a parlé aussi, on a abordé les besoins, la notion de besoins qui ne sont pas donc essentialisés, ce n'est pas une notion évidente. Les besoins sont construits, s'inscrivent dans une histoire. Et puis voilà, on a abordé cette notion-là. On a aussi abordé le rapport entre industrie et artisanat aussi. Et puis Xavier nous parlait du design comme un élément fondamental, donc qui va nous permettre de repenser les problématiques vitales. En les replaçant au sein des processus industriels, c'est ce qui est important aussi à garder en tête. Alors, on va se concentrer à présent sur les rapports plus spécifiques qui peuvent exister, qui existent entre les concepts que l'on a vus lors de la première partie et puis lors de la première partie consacrée au livre de Xavier et le métier et la formation de l'ingénieur. On commence cette seconde partie maintenant.
Alors donc on va repartir du début en quelque sorte de la non-neutralité de la technique et donc se demander on l'a rappelé à plusieurs fois, mais donc la technique n'est pas neutre éthiquement, n'est jamais neutre éthiquement, elle embarque et j'utilise tes termes, elle incorpore des valeurs. On avait distingué également le caractère plus ou moins explicite, implicite, conscient, imprévu d'un point de vue du concepteur de cette articulation entre technique et valeurs. Est-ce que tu as quelques pistes, Xavier, pour qu'on intègre dans les formations d'ingénieurs, donc notamment dans les formations aux méthodes et techniques, évidemment, pas seulement dans les formations de sciences humaines, je sais que vous faites déjà beaucoup cela, pour aller justement vers des conceptions qui seraient plus conscientisées de cet aspect un peu particulier des techniques, que voilà, qu'on met pas forcément en avant lorsque, par exemple, on forme à une méthodologie de conception de base de données, comme j'ai pu le faire pendant quelques années.
Oui, alors c'est une question lourde. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je dirais que quand on pense formation des ingénieurs, ce qui me semble primordial, c'est d'amener l'ingénieur à considérer le dispositif technique comme une sorte de réalité feuilletée, ou en tout cas comme une réalité multicouche, qui comprend bien sûr toute une dimension matérielle, sous la forme d'intrants, il faut des métaux, enfin bref, des matériaux de toutes sortes, ce qui amène des choses alors qui sont quand même connues de l'ingénieur aujourd'hui, à savoir des méthodes d'analyse de cycle de vie, comment réduire la quantité de matériaux utilisés dans les process de fabrication, comment substituer à des matériaux dont l'extraction, éventuellement la fabrication, est très coûteuse sur le plan environnemental humain. Comment substituer à ces matériaux-là d'autres matériaux qui seraient moins coûteux environnementalement et humainement parlant. Bref, on a affaire à des choses qui sont relativement connues qui donnent lieu à des méthodologies. Alors qui sont pas forcément parfaites, naturellement, mais qui donnent lieu à des méthodologies. Il y a un autre niveau, une autre couche, disons, qui est non pas celle de Des matériaux n'ont pas celles mêmes des fonctionnalités, parce que cette couche des fonctionnalités peut aussi donner lieu à des méthodologies de design. On l'a vu, pas tout à l'heure, mais la dernière fois. Comment, par des choix de design embarquer ou incorporer, comme tu le disais, des choix de valeurs, des normes que l'on souhaite voir se déployer, enfin, qu'on souhaite rendre effectives. Bref, comment orienter le design par une conception des fonctionnalités, hein, par exemple. Et puis il y a une couche vers laquelle il est beaucoup plus difficile d'amener l'ingénieur, ou plutôt qu'il est plus difficile sans doute de faire passer dans les formations. Et cette couche, c'est celle de la contextualisation, de la mise en œuvre des dispositifs. Parce que un dispositif technique est une réalité qui va déployer ses effets dans des milieux. Ce que nous appelons des milieux, je reviendrai sur cette notion de milieu tout à l'heure, dans des milieux, alors des milieux extrêmement variés, ça peut être bien sûr des milieux naturels, mais ça peut être des milieux professionnels, et qui, comme on l'a vu aussi la dernière fois, par ses effets d'agentivité, le dispositif va amener une reconfiguration en profondeur de ces milieux. Je prends l'exemple d'un milieu professionnel où on va trouver des acteurs très différents, on va trouver des métiers, des pratiques professionnelles, des individus qui, par leur métier, sont attachés à des valeurs professionnelles. Bref, la technique peut transformer en profondeur, par ses effets d'agentivité, ces milieux. Et donc, cela amène en amont une réflexion sur la question de savoir ce qui doit être ou non absolument préservé dans les milieux. Ce qui a une valeur fondamentale pour les principaux concernés et qui doit être absolument préservée, versus ce qui peut, à la limite, être transformé, ce qui va donner lieu à un mieux-faire ou un mieux-être et qui peut sans difficulté être abandonné. Eh bien, cette question-là, elle est beaucoup plus difficile, je pense, à amener dans les formations d'ingénieurs que la question de savoir comment reconfigurer des filières industrielles, d'approvisionnement en matériaux, ou même comment injecter, en quelque sorte, des buts désirables ou jugés comme tels dans des choix de fonctionnalité. Hein, cette question de la contextualisation, des effets d'agentivité dans des contextes. Et pourquoi est-ce que c'est très difficile? Et je terminerai là, pardon d'être un peu long, mais c'est difficile pour deux raisons. Premièrement, parce que au fond, là, on est, et on n'en a pas parlé la dernière fois, mais il faut prendre en considération un point fondamental quand on parle d'agentivité, c'est l'incertitude. C'est-à-dire on ne sait pas, à l'avance, tous les effets que va produire une technique. Je reprends mon exemple d'un milieu professionnel. Un milieu de soins, par exemple, de soins au sens le plus immédiat du terme, un soin clinique. Bon, il y a toutes sortes d'acteurs, il y a des machines, il y a des patients. Comment l'arrivée d'un nouveau dispositif, qu'est-ce que va produire un nouveau dispositif en se déployant, en déployant ses effets dans ce contexte-là, en termes de relations avec les patients, en termes de relations interprofessionnelles entre les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, etc. etc. On n'est pas dans la capacité de lister par avance de manière exhaustive tous les effets que ça va produire. On est dans l'incertitude. Et donc, comment faire exister, comment rendre, régler cette tension entre le fait qu'on doit figer dans des choix de conception la précaution, le soin qu'on veut prendre de ces situations, de ce qui compte dans les situations, et l'incertitude, finalement, qui fait qu'on n'est jamais sûr de toucher au but, en quelque sorte. Ça, c'est le premier point. Et puis, la seconde raison pour laquelle, me semble-t-il, c'est très difficile de faire entrer dans les formations d'ingénieurs cette problématique de l'insertion des dispositifs dans les milieux et de ces effets d'agentivité dans des milieux travaillés par des valeurs et voire des conflits de valeurs, eh bien c'est que cette attention au milieu, cette précaution, ce soin des milieux passe par des enquêtes, une enquête que je qualifierais de quasi-ethnographique ou d'ethnographique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un ingénieur, comment amener l'ingénieur dans son métier à prendre le temps de bien comprendre quelles sont les valeurs professionnelles en jeu, à bien comprendre quels sont les besoins, on y reviendra peut-être, mais les valeurs, les conflits de valeurs, qu'est-ce qui est important pour les acteurs, hein, une enquête ethnographique. Je ne suis pas convaincu la façon dont est organisé le travail de l'ingénieur dans des structures qui peuvent être très diverses, hein, mais des organisations qui sont quand même tenues par des impératifs de rentabilité, etc. Je ne suis pas convaincu que cette temporalité de l'enquête ethnographique puisse être intégré facilement. Et pour moi, c'est le problème fondamental. Un milieu ne se décrète pas. Ce qui est important dans un milieu, ça ne se décrète pas. ça se visite, et il faut du temps.
Alors, ce que je te propose, c'est que cette deuxième raison, alors on voit toute son importance, mais on va la mettre légèrement de côté, c'est-à-dire c'est difficile parce que, eh bien, ce serait un peu en contradiction avec les objectifs de l'essentiel des acteurs économiques aujourd'hui. On va la mettre un peu de côté et donc on va explorer un tout petit peu la première partie de pourquoi c'est difficile, c'est-à-dire peut-être cette question d'incertitude. Alors, je trouve que ça mérite vraiment une vraie recherche en ingénierie ou dans les différentes méthodos. Il y a d'autres collègues à l'UTC qui explore ce genre de choses. Je vais mentionner le concept d'empreinte fantôme qu'on emprunte à Guillaume Carnino, qui nous a présenté ça dans le cadre du cours donc l'autechnisation et numérique. Mais pour revenir à ton livre, tu parles de ton côté de la notion de pli donc que tu empruntes à ton tour à Bruno Latour pour montrer qu'une technique c'est toujours du temps, de l'espace et des humains. Alors tu prends l'exemple du marteau hein, et tu nous expliques que quand on a un marteau dans la main, il a fallu du fer qui a été produit par la terre il y a très longtemps, il a fallu du bois qui a poussé pour faire le manche, de l'espace pour faire venir le métal de Chine, le bois des Ardennes, je reprends ton exemple exactement. Tu nous parles des humains qui ont travaillé dans l'usine, qui l'ont transformé, etc. etc. Donc en fait, quand on a un marteau dans notre main, il y a tous ces éléments-là qui sont pliés, en quelque sorte, dans l'objet technique. Donc, encore une fois, ça me semble assez proche de ce que Guillaume appelle l'empreinte fantôme pour désigner tous les liens invisibles que les techniques entretiennent avec le monde. J'ai l'impression que peut-être du côté des ingénieurs, il y a un travail méthodo qui pourrait être fait pour se forcer, en quelque sorte, dans notre approche de conception, à essayer de visibiliser un petit peu ces éléments. Peut-être aussi, je te tends deux perches, mais tu prends celle que tu veux, que d'un point de vue du design, puisque c'est alors là, du coup peut-être au sens le plus trivial que celui que tu utilisais, mais ça aurait du sens aussi de le rendre visible dans les produits que l'on achète, c'est-à-dire au niveau du consommateur. Hein. Derrière un smartphone, on ne voit pas les enfants dans les mines en Afrique, les data centers et les réseaux qui traitent les données, on ne voit pas la publicité qui est créée, on ne voit pas tout ça en fait, hein. Tout ça c'est caché, et pourtant, en quelque sorte, c'est plié pour reprendre les termes dans leur smartphone. Donc voilà, je ne sais pas si ça t'inspire des choses au niveau... en fait, comment est-ce qu'on pourrait justement peut-être former les ingénieurs à avoir conscience et peut-être aussi aider à donner conscience de ces éléments-là en s'autorisant à mettre de côté leur éventuel conflit d'intérêts avec les intérêts de l'organisation dans laquelle ils vont travailler, quoi.
Oui, ça, mais c'est tout à fait utile que tu mentionnes cette référence au pli. Alors, c'est une notion effectivement mobilisée par Latour, mais qui vient de Deleuze, que Latour reprend d'ailleurs sans en faire mystère à Deleuze, et bien sûr en lui donnant une signification et une portée qui est la sienne, hein, à Latour. Donc le pli, oui, c'est ça, c'est comment l'objet technique que nous utilisons encapsule en quelque sorte, plie, dans l'usage que nous en faisons et qui bien souvent implique sa disparition de notre champ de vision. Je veux dire, pour planter un clou, hein, c'est l'exemple qu'on donne trivialement, pour planter un clou, je prends le marteau, mais je ne regarde pas le marteau. Le marteau s'invisibilise dans l'usage que j'en fais pour planter mon clou. Ce que je vois, c'est le clou, éventuellement le tableau que j'ai accroché, mais il y a cet effacement finalement de la technique qui est impliqué dans le fait même que ça fonctionne. Hein, c'est quand ça fonctionne plus, c'est là que ça devient visible. Hein, si mon marteau est cassé ou qu'il est introuvable, comme disait Heidegger, eh bien c'est là qu'il devient quelque chose d'extrêmement visible, un objet devant moi qui résiste, etc. Mais sinon, quand ça fonctionne, c'est invisible. Tout ça est plié. Hein, l'exemple du marteau, mais on pourrait en prendre plein d'autres, plie effectivement, dit Latour, du temps, puisque les temporalités hétérogènes qui entrent dans la composition du marteau sont celles du fer, hein, qui est une temporalité géologique, celle du bois qui a servi à faire le manche, donc c'est une temporalité plutôt biologique, et puis une temporalité humaine qui renvoie à l'industrie, à l'usine qui a fabriqué le marteau peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années avant, auparavant, bref, temporalité pliée, de l'espace, puisque tous ces intrants peuvent arriver des quatre coins du monde, et puis des humains. Effectivement, il a fallu des gens pour le fabriquer, des gens pour le transporter, le conditionner, etc. etc. Peut-être pour assurer de la maintenance, s'il s'agit de dispositifs comme les machines, enfin les ordinateurs qu'on utilise, bref. Donc, pli d'espace, de temps et d'humains. Alors, pour revenir au sujet de l'ingénierie, je pense que ça, ça s'articule bien avec ce que je disais tout à l'heure sur le caractère multicouche des dispositifs techniques. C'est-à-dire qu'on peut très bien, effectivement, déplier, comme tu le suggères, et il y a des dispositifs, enfin, des outils qui permettent de le faire, déplier ce qui est plié en termes de matériaux. Ou effectivement, comment amener les usagers des dispositifs techniques à voir vraiment à voir ce qui est invisibilisé, c'est-à-dire les rivières polluées à l'autre bout du monde parce que mon ordinateur ou mon smartphone intègre tel ou tel élément, etc., etc. Donc comment arriver à voir ce qui a été invisibilisé par toute une organisation ayant conduit à la possibilité pour moi d'utiliser un objet. Et puis il y a la couche de la fonctionnalité. Déplier effectivement en termes de valeur, et ça il y a des méthodologies de design, je le disais, qui font cela. Et il y a cette couche effectivement qui est pliée dans l'objet technique, dans le dispositif, et il me paraît beaucoup plus problématique à rendre visible pour l'ingénieur, à savoir cette fameuse couche des valeurs qui structure un milieu. Et je donne un exemple très simple de cela. Enfin, très simple, pas très simple du tout, mais que je trouve parlant, et qui est un exemple qui vient du travail qui a été fait par une étudiante de l'UTC, Elodie Gratreau, que nous avons co-encadré avec une collègue en bio-ingénierie, et qui porte sur les générateurs de dialyse. Un travail qu'elle a fait il y a plusieurs années. Et très rapidement, le générateur de dialyse donc, est une technologie très mature sur le plan technique qui fait exactement ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire purifier le sang, etc. Bon. Chez des patients en situation d'insuffisance rénale chronique. Or, en matière de conception, à un moment, il a semblé intéressant, ça semblait être une bonne idée aux yeux des ingénieurs, d'enfermer, comme dans ce qu'on appelle une boîte noire, un certain nombre de mécanismes, et notamment de paramétrage de la machine, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était les soignants qui paramétraient elles-mêmes le générateur du dialyse en fonction du patient. Bon, les soignants avaient la main sur la machine. Et pour des raisons de sécurité, parce que si les humains ont la main, ça peut toujours donner lieu à des erreurs, bon, on a encapsulé dans des automatismes, finalement, ce paramétrage, plus un certain nombre d'autres fonctionnalités, ce qui fait que les soignants ont perdu la main. Alors pour l'ingénieur, bien sûr, c'était une valeur. La sécurité est une valeur et quand on enferme des actions en boîte noire, qu'on les automatise, on écarte la possibilité de l'erreur humaine. Donc on sécurise l'activité de soins qui passe par la machine. En réalité, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire une augmentation du stress, de l'insécurité, par le fait même que les soignants ont perdu la main. Avec des alarmes intempestives se déclenchant pour des raisons incomprises, incapacité désormais de comprendre ce qui se passe dans cette boîte noire. Donc voilà, ça a été générateur plutôt d'anxiété, d'insécurité que le contraire. Et on a là typiquement ce que je voulais dire, c'est-à-dire par incompréhension des valeurs professionnelles, des valeurs qui structurent l'activité même du soin en l'occurrence, manifestement, c'était une valeur pour les soignants, pour les infirmières, les infirmiers, de paramétrer la machine. C'était une valeur professionnelle qui a été perdue, n'est-ce pas, par des choix de conception. Et donc, c'est comment faire entrer dans l'activité même de conception la prise en compte de ce phénomène. Avec la difficulté que tu relevais, effectivement, et qui est, je pense, la difficulté fondamentale, c'est cette incertitude qui fait que, si on va en amont, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais si on était allé en amont demander, pour reprendre le même exemple aux soignants, qu'est-ce qui est important, quelle est la valeur, mais ça ne serait pas arrivé spontanément dans la discussion, tout simplement parce qu'on a affaire à des valeurs sédimentées dans les pratiques, des valeurs qui en deviennent elles-mêmes invisibles à force d'être évidentes. C'est une fois que ça a disparu qu'on se rend compte que c'était une valeur, parce que ça ne fonctionne plus, parce que ça ne marche plus. On est un peu le cas, comme dans le cas du marteau de Heidegger, c'est-à-dire c'est quand ça ne fonctionne plus qu'on se rend compte, effectivement, qu'il était là, que j'en avais besoin pour... Quand je suis tout entier à ma tâche, je ne le vois même plus. Quand je suis tout entier à ma tâche de soins, je ne vois même plus l'importance que prend pour moi le fait de paramétrer. Et que si je perds cela, je perds la qualité du soin. Donc c'est cette difficulté, voire cette impossibilité d'anticiper les valeurs en jeu qui structurent une situation, qui fait qu'en termes de conception... Finalement, c'est très difficile de toucher juste.
8 divinités en orbite. Je regarde le ciel, j'ai l'air bête. Les angoisses se traînent en orgie. Stress cellulaire, Ethernet. De l'amour plein, les mots pleins, les mains. Un cœur en plus fait des nœuds. Anémie comme vous, comme l'un des miens. La couleur de nous, c'est le bleu. Et puis merde, on s'aime. Pourquoi on s'interdirait du long terme? Pourquoi on vilipendrait la lanterne? Pourquoi on vivrait que sous la lanterne? Pourquoi on devrait se faire mal au cœur? Je suis ma propre lumière, je la projetterai sur les murs de l'aube. Sur la nuance azur la plus pure de l'eau.
Si tu veux pleurer dans moi, pleure dans moi. Si tu veux que je prenne tout, donne-moi l'heure, l'endroit. Elle m'a vu mentir à Dieu. Je l'ai vu me montrer du doigt. J'irai bien quand ira mieux. Y'a des anges qui donnent et des anges qui prennent. J'ai mis l'antivol sur tes jolies ailes. Y'a des anges qui donnent et des anges qui prennent. J'ai mis l'antivol sur tes jolies ailes.
Je suis entre les gens qui restent et les gens qui passent. Entre les gens qui stressent et les anti-vax. Entre l'avenir promis et le temps qu'on perd. Entre chaque grande syllabe de ces gens minables. Dans cette danse qui lasse, qui ralentit. Dans le reflet futur de mes 40 piges. Dans les plus jolis mots de tes dernières pages. Dans les films d'amour qui n'ont pas menti. Et on fait comme on peut, quand on peut. Avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. On savait déjà avant de se connaître. Autant pour cette fois qu'on s'aime tant qu'on peut. Il y avait déjà ce nom en premier rôle. Ce qu'on ressent dans l'ADN. Y'avait des prémices de toi dans mon génome. J'aurais des souvenirs de toi dans la GN.
Un jour les fleurs se fanent et le deuil s'en va. En attendant hors de question que tu pleures sans moi. Tu m'as vu mentir à Dieu. Tu sais que je l'ai fait pour toi. Un beau jour ça ira mieux. Y'a des anges qui donnent et des anges qui prennent. J'ai mis l'antivol sur tes jolies ailes. Y'a des anges qui donnent et des anges qui prennent. J'ai mis l'antivol sur tes jolies ailes.
Gêné Xavier avec la question des besoins hein, qu'on avait déjà commencé à esquisser, on va dire, dans la première partie de l'émission. Alors moi, j'ai éclairé ma lecture d'un autre ouvrage que j'ai lu presque en même temps, juste après, qui s'appelle Les besoins artificiels de Razmig Kecheyan. Je ne sais pas si tu connais cet auteur. Je vais pas en faire un résumé, hein, mais très rapidement, donc c'est une lecture assez marxiste, je pense, de la question, et il postule notamment, et j'ai trouvé ça assez intéressant, que la production était la plupart du temps aux commandes de la création de besoins, et donc finalement c'est pas le caractère artificiel des besoins qui est en cause, hein. On l'a vu tout à l'heure, il y a toujours en quelque sorte quasiment tous les besoins sont artificialisés à un moment ou à un autre, mais donc typiquement que ce soit côté aliénation de l'homme ou crise environnementale, donc ce serait pas tant le caractère artificiel qui est plutôt ontologique que la création industrialisée et accélérée de ces besoins par une société, et une création à laquelle, eh bien, fondamentalement, aujourd'hui, les ingénieurs participent pour répondre à la demande, encore une fois, on l'a dit, de la croissance et de notre modèle économique général. Alors, il y a quelques sociétés... quelques modèles alternatifs qui sont en train de qui voient un peu le jour, hein, des sociétés coopératives qui, comme par exemple l'Atelier Paysan ou les Licorn avec deux O comme Fairphone, Common W, etc., qui sont des sociétés qui comptent pas mal d'ingénieurs en leur sein et qui sont en train de chercher un petit peu un autre modèle justement par rapport à cette croissance des besoins. Alors voilà, est-ce que nous en tant que prof à l'UTC, est-ce qu'on devrait essayer de favoriser un petit peu peu ces modèles? Est-ce qu'on devrait aider un peu les ingénieurs qui s'orientent vers ces modèles à s'équiper, peut-être méthodologiquement, on l'a dit avant, en aidant à montrer les plis, hein, pour reprendre la terminologie qu'on a utilisée. Voilà, donc ça peut être un peu une est-ce que c'est quelque chose dont on charge? Alors, pareil, juste pour te redonner quelques perches, hein, tu saisis comme toujours celle que tu veux, mais il y a aussi un peu de stratégie, peut-être qu'il faut jouer les deux, aider les ingénieurs qui s'orientent vers ces modèles dits un peu alternatifs, ou au contraire, aider ceux qui ont aussi comme vocation de rester dans les grandes entreprises capitalistes pour les faire évoluer, y compris de l'intérieur.
Oui, je peux qu'être d'accord avec cette idée de faire entrer dans nos formations ces méthodologies alternatives qui devraient faire partie, ou en tout cas on peut se fixer ça comme objectif quand on est une école qui forme des ingénieurs, qui devraient faire partie du bagage de l'ingénieur de demain, enfin d'aujourd'hui et de demain. Maintenant, je vais peut-être revenir sur la notion... la notion de besoin. Je n'ai pas lu l'ouvrage que tu mentionnes, mais je suis en accord évidemment complet avec la façon dont tu résumes le message de cet ouvrage, la thèse de cet ouvrage sur les besoins artificiels, que la question au fond n'est pas celle de l'artificialité des besoins, mais effectivement celle des conditions de leur production. Un besoin est toujours artificiel, mais le fait de dire qu'il est artificiel ne dit encore rien sur les conditions de sa production. Donc je suis entièrement d'accord. Je voudrais peut-être préciser sur cette notion de besoin la différence avec un mot que j'ai souvent employé, qui est celui de valeur. Parce que je crois que autant le besoin est une notion riche quand il s'agit d'y voir la caisse de résonance de conflits de valeurs, c'est ce qu'on disait dans l'émission de la dernière fois, autant c'est une notion qui peut être aussi un cache-misère. C'est une notion qui peut être un cache-misère, en particulier quand l'ingénieur peut avoir tendance à se satisfaire, pour comprendre justement comment faire entrer les milieux dans sa stratégie de conception, c'est-à-dire les destinataires de ces dispositifs dans la conception, peut se satisfaire d'une enquête sur les besoins ou d'une expression des besoins. De quels sont vos besoins ? Quels sont vos besoins ? Par exemple, pour rester sur le cas du soin médical, de la clinique, aller voir des cliniciens, des médecins, quels sont vos besoins en matière de soins, et donc l'ingénieur essayer de comprendre quels sont les besoins pour intégrer dans le dispositif médical les dits besoins. Or, ça pose un problème et une limite. Le problème, c'est que quand on demande à un acteur, un opérateur quelconque dans un milieu professionnel, pour garder toujours le même type d'exemple, on se heurte parfois à la difficulté d'arriver à une expression des besoins. C'est-à-dire, quels sont vos besoins ? Bon, parfois, ça peut être clair, mais parfois, ça peut être extrêmement compliqué. Je ne sais pas quels sont mes besoins. Et d'autre part, je pense que c'est, même si on arrive à une expression satisfaisante d'un besoin ou de quelques besoins, ça ne dit encore rien de ces effets d'agentivité qui sont, comme on le disait, fortement marqués d'incertitude et qui vont transformer la situation dans laquelle ces besoins trouvaient à s'exprimer. Vous voyez ? Si vous exprimez des besoins dans un contexte de sécurité sur des valeurs implicite qui structure les pratiques professionnelles, si ces valeurs sont elles-mêmes remises en question, reconfigurées, les besoins perdent de leur pertinence, ou plutôt, derrière les besoins, en fait, ce que nous n'arrivions pas à dire, c'est ce à quoi nous tenions véritablement. Voilà, donc le besoin est une notion à manipuler avec précaution. Il est bien évidemment très important de s'enquérir de ce dont les acteurs ont besoin, parce que ça peut être la voie d'entrée sur ce qui compte à leurs yeux. Mais en sachant que parfois ce qui compte ne s'exprime pas bien à travers un inventaire des besoins et peut parfois même être masqué par une liste exprimée de besoins. Et donc s'en tenir à cela peut être source de malentendus.
Ouais, alors pour tout à fait, hein, là je crois qu'on a, on touche, on pourrait parler très longtemps de cette question des besoins et peut-être pour le reprendre un peu sous cet angle, tu nous as mis en exergue l'incertitude, donc tu l'as dit, hein, de l'anticipation des effets d'agentivité. Là tu nous mets aussi en face de la complexité, du non-dit, etc. Donc tout ça effectivement c'est des concepts qui viennent perturber en quelque sorte. Enfin, disons une première façon de le voir, c'est qu'ils viennent perturber le métier d'ingénieur et le métier du scientifique qui a plutôt bien envie de s'arrêter, réfléchir, faire ses plans et ensuite construire selon ses plans. Donc là, on voit que ça fonctionne pas bien. Alors, on inclusif, hein, je me mets dedans, a tendance peut-être effectivement dans la formation et dans les métiers d'ingénieur à essayer de mettre de côté tout ce qui relève de cette incertitude, de cette complexité, de simplifier pour y arriver, pour avancer. J'ai l'impression que là, tu nous invites quand même à plutôt essayer de les embarquer ou de les incorporer, comme tu dis, donc du coup d'avoir avec nous ces paramètres pour voir justement comment et ensuite de s'équiper méthodologiquement pour voir comment on les gère. Ça peut nous amener à un autre, un quatrième point, c'est celui de la question du coup du politique, alors du politique au sens large, c'est-à-dire au sens des choix, de comment est-ce que une fois qu'on a conscience que c'est complexe, incertain, ça veut dire que c'est pas un problème que l'on peut totalement délégué, enfin ou même délégué tout court, j'enlève le totalement aux ingénieurs ou aux scientifiques. Hein. C'est pareil, ce sera arrangeant, hein, mais il n'y a pas quelqu'un qui à la fin de ses calculs peut nous expliquer ce qu'on doit faire. Donc ça veut dire que c'est de la négociation, ça veut dire que voilà, enfin c'est de l'ordre du politique. Je fais aussi une petite insiste, peut-être aussi hein, cette question du politique, à mon avis, elle est aussi importante parce que une partie significative de nos ingénieurs vont jouer un rôle politique au sens large dans les organisations. Alors, je te pose la question comme ça, de façon peut-être un peu provocante, mais enfin provocante, c'est exagéré. On peut faire pire. On a déjà fait pire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait afficher sur la passerelle de l'UTC qui viendrait peut-être mettre un peu ça en avant? Est-ce que ce serait quelque chose comme orienter la technique vers le soin, prendre soin de la technique, prendre soin des humains? Est-ce que tu as une idée comme ça? Et ensuite, on fera un atelier TN4, une banderole et on essaiera de l'afficher. Mais quelque chose qui remettrait ça un peu en avant, quitte à assumer le fait de mettre un petit peu en arrière justement les super pouvoirs de l'ingénieur.
Alors je doute que une banderole, prendre soin, mettre du soin dans la technique suffise à réorienter en profondeur les pratiques de conception, les pratiques d'ingénierie. Pour te répondre plus sérieusement, je crois que si l'on se contente, si l'on se limite à ce mot d'ordre, hein, du soin dans la technique, en fait, on perd de vue cet aspect multicouche de la question, hein, sur lequel j'ai beaucoup insisté. L'ingénieur, et à juste titre, peut très bien comprendre cela comme un impératif de déflation en matière de matériaux, par exemple. Donc on se situe dans un certain nombre de grandeurs, sur une certaine couche, où effectivement il va falloir faire des analyses de cycle de vie, etc. Et puis il y a toutes les autres couches, hein, celles des fonctionnalités et de leurs effets d'agentivité, celles de l'insertion du dispositif dans des milieux structurés par des valeurs. Donc le soin, c'est tout cela. Le soin, c'est tout cela. Mais il faut une explication, bien sûr. Il faut une explication. Et au-delà de l'explication, cela donne lieu, on l'a évoqué rapidement, à des méthodologies différentes. Des méthodologies maîtrisées par l'ingénieur, comme l'analyse de cycle de vie, des méthodologies de design, mais des méthodologies d'enquête, c'est ce que je disais aussi. Oui, on est équipé pour les sociologues, les anthropologues, les ethnologues savent très bien faire, enfin, essayer de comprendre ce qui structure un milieu, ce qui structure un collectif. Bon. Après, on va parvenir sur les problèmes de compatibilité entre les temporalités de l'étude et puis les temporalités de la conception. Tu as laissé cela de côté, je pense que c'est quand même très important, mais je reste à cette au fait d'écarter cela par manque de temps. Mais donc, alors qu'est-ce qu'il faudrait afficher? Je ne suis pas convaincu que ce soit une question d'affichage, mais je crois beaucoup que ça passe presque par la bande, bien sûr dans les formations en tant que telles, mais par des stages, par des activités de co-encadrement. impliquant des collègues en ingénierie, des collègues en sciences humaines et sociales, par des thèses. C'est-à-dire une structuration presque par le bas et par le haut, par la recherche. Voilà, pour essayer de, je crois beaucoup donc à cette articulation formation-recherche pour faire évoluer la formation même des ingénieurs. C'est l'avantage d'être dans une école d'ingénieurs qui est en même temps une université, c'est-à-dire où il y a de la recherche. On est les mieux placés pour répondre à ces défis-là, je pense.
Ouais, je retiens le on est équipé pour ça, hein, effectivement. Juste avant, André, que tu nous mettes un petit peu de musique, mais j'étais il y a quelques jours dans une grande réunion à l'INRIA où, de la même façon, s'est posé la question d'un ordinateur qui durerait 20 ans. Et pareil, il y a une main qui s'est levée en disant assez simplement, on sait parfaitement faire ce genre de choses. Donc il y a aujourd'hui aussi peut-être aller rechercher, retrouver et mixer des méthodos et des choses qu'on sait faire pour résoudre un certain nombre de nos problèmes.
Vous êtes ce qui se fait de mieux, ce que l'on met en vitrine, harmonieux et soyeux, pièce échappée de l'usine. Renvoyez aux autres l'éclat de votre détente, en faisant vôtre notre dentifrice à la menthe. Devenez ce que vous méritez d'être. Vous en avez assez de paraître un lapin dans les phares.
On vient d'entendre « Un lapin dans les phares » de Todos Destinos, ça vient de l'album Bestiaire, c'est sous licence CC by NDNC. Tout à l'heure, on avait écouté « Les anges » de Nedelko et Oster Lapoisse sous licence CC by NC. Ce sont des musiques trouvées sur Zik Libre en Bib et on poursuit l'émission avec Xavier Guchet.
Alors on a, Xavier, là on a commencé à aborder la question méthodo et on voit, enfin on a posé son importance dans le cadre de la formation et du métier d'ingénieur. Moi j'ai commencé à bricoler, à m'emparer de ce que tu as appelé le carré du soin dans ton livre. Voilà, commencer à utiliser un petit peu ça dans mes cours, dans mes futurs cours. Alors je te livre ce que j'en ai fait, mais je te laisse ensuite remettre de l'ordre ou du désordre dans tout ça. Donc j'ai découpé d'un côté, je pense en emprunter essentiellement tes termes, mais donc le côté démarche exigeante de la raison, c'est-à-dire rechercher la connaissance, que j'appelle parfois littératie technique, c'est-à-dire se forcer à comprendre comment ça marche. Paradoxalement, c'est pas toujours évident pour même un ingénieur en situation de conception de bien comprendre tous les mécanismes. On en sait quelque chose en informatique. Deuxième aspect, expliquer rationnellement ce qui est construit et susciter le débat, c'est-à-dire encore une fois, pas se contenter de produire quelque chose, mais si on anticipe en quelque sorte l'incertitude, et bien de prévoir que ça, en quelque sorte, ça va pas se passer comme prévu. Donc ça, c'était un peu une première partie, mais t'es pas obligé de garder ce découpage. Et une deuxième partie, donc qui est la sensibilité, tu en as déjà beaucoup parlé, hein, mais au milieu, au sein desquels les dispositifs vont produire leurs effets, avec un découpage, bien sûr, encore une fois, artificiel, mais qui peut nous servir à réfléchir. D'un côté, s'insérer dans la nature avec sa complexité, tu parles d'incorporation, et de l'autre côté, considérer les utilisateurs, je crois que tu parles d'insertion des humains. Voilà, je te laisse réagir sur cette petite appropriation de ma part.
Oui, alors je reviens à la structure même du livre, hein, et aux arguments développés dans le livre. Donc je rappelle, hein, que mon objectif était de comprendre, à partir de ce constat d'un divorce, hein, c'est le terme que j'emploie, peut-être faute de mieux, mais d'un divorce de la technique et de la vie, comment réarticuler technique et vie, et donc technique et soins. Et j'essaye, en m'appuyant sur certains corpus, d'abord de dégager les conditions qui permettraient de réarticuler, de repenser la technique à partir de la vie, de ses valeurs, et en particulier, alors j'insisterai sur deux de ces conditions, j'en distingue quatre, mais deux de ces conditions, sur lesquelles d'ailleurs on a déjà un petit peu parlé. La première est de renoncer à ce que j'appelle dans le livre le point fixe. Je donne un exemple très simple. Prendre soin de la nature, ça a pu vouloir dire, dans un certain contexte, notamment nord-américain, au 19e siècle, ça pu vouloir dire créer une sorte de cordon de sécurité autour d'espaces protégés et préservés de toute activité humaine au maximum. Hein, l'humain, disait-on, est autorisé à passer, mais il ne doit laisser aucune trace. Hein, donc ça, c'est ce que j'appelle le point fixe, c'est-à-dire on identifie une nature ou une entité définie par certaines caractéristiques et qu'il s'agit de faire perdurer comme telle sans aucune altération. Et le soin, ce serait cela. Eh bien, je crois que justement, le soin, ce n'est pas cela. Alors bien sûr, le soin peut vouloir dire s'abstenir de faire n'importe quoi et donc de préserver des choses. Ça va de soi. Que ce soit dans le domaine de la nature, hein, des écosystèmes, des vivants non humains, mais ou dans le domaine humain. Quand des manières de faire, des activités de travail, des cultures de métier fonctionnent très bien, donnent les résultats attendus, pourquoi les transformer ? Qu'est-ce qui est à préserver, justement ? La question de la préservation peut avoir du sens. Mais s'en tenir à ça, c'est essentialiser, hein, pour reprendre le terme que tu employais tout à l'heure, ou la fois précédente, c'est essentialiser des valeurs, essentialiser des fonctionnements, essentialiser des relations, des entités, finalement, dans ce qui les définit, et en les préservant de toute possibilité de transformation. Eh bien, il me semble que s'en tenir à cela, c'est donner une vision étriquée du soin. Et qui d'ailleurs, dans le domaine environnemental, hein, de l'éthique environnementale, a été largement dépassé par des approches moins préservationnistes de ce type-là que ce qu'on appelait des approches plus conservationnistes, ou en tout cas qui reposent sur des modèles beaucoup plus dynamiques, où ce qu'il s'agit d'organiser, c'est précisément les interactions entre toutes sortes d'acteurs, y compris humains. L'humain ayant la capacité, par son savoir, par ses techniques, de renforcer la biodiversité, etc., etc. On sait très bien, par exemple, que des paysages de bocage aménagés, anthropisés, sont plus favorables à la biodiversité que des friches. Bon. Deux modèles, en quelque sorte, du soin, ne rien faire surtout, et versus repenser l'activité humaine en termes, justement, et ça va nous appeler au point que tu évoquais, en termes d'insertion. Hein, c'est comment cette activité s'insère dans des contextes, des milieux qui sont là aussi traversés par des activités vitales, celles des autres vivants, des vivants non humains, etc. Donc, premièrement, renoncer au point fixe. Prendre soin. Et c'est important, par exemple, pour essayer de se situer, en tout cas dépasser les débats entre les transhumains, enfin les transhumanistes et les bioconservateurs. Hein. Si le bioconservateur, l'argument, c'est on ne peut surtout pas toucher à la nature humaine, bon, c'est caricatural, mais ce que je dis, mais en gros, si le débat est celui-là, évidemment, on fait complètement fausse route. Et le transhumaniste a beau jeu de dire Mais c'est, je veux dire, l'humain est né, s'est constitué, évolutionnairement parlant, par son auto-transformation. Donc le transhumanisme, à la limite, est défini l'aventure humaine sur Terre depuis ses commencements. Donc dépasser la question du point fixe. Et l'autre, une autre condition sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est reconfigurer la perception. Et ça, pourquoi je mentionne ça ? Parce que ça rejoint ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est comment rendre visible ce qui a été invisibilisé. Et ça me paraît absolument fondamental. Comment rendre visible ? Alors, ce qui a été invisibilisé par des stratégies industrielles diverses et variées, ou des tactiques, ou invisibilisé tout simplement par les effets d'incertitude qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'anticiper tous les effets d'agentivité, et donc de dégager tout ce qui a de la valeur par, a priori, dans un milieu dans lequel un dispositif est amené à produire ses effets. Donc, comment rendre visible ce qui n'est pas visible ? Soit parce que ça a été invisibilisé, soit parce qu'on est en situation d'incertitude et qu'on ne voit pas ce qui compte. Donc ça me paraît très important, et ça, j'essaye de réfléchir à cela, notamment à partir de Bergson, mais aussi d'autres, et c'est au fond la question au cœur du design. Enfin, en tout cas, c'est une question au cœur du design, tel que, par exemple, le designer et artiste Laszlo Molinage, du Bauhaus, avait traité et avait mis au cœur de son travail avec les élèves du Bauhaus. À partir de ces conditions que j'identifie dans le livre pour repenser une articulation technique et vie, et donc pour remettre du soin dans la technique, effectivement, je dégage quelques principes directeurs à finalité pratique, donc destinés à l'ingénieur, pour remettre la technique dans le soin, et que j'appelle le carré du soin, parce qu'il y a quatre principes. Une figure à quatre côtés, quatre angles, enfin pas quatre côtés seulement, mais à quatre angles, avec pourquoi pas des angles droits, puisqu'il n'y a pas de raison d'introduire quelques différences que ce soit, ça s'appelle un carré. Donc le carré du soin est effectivement avec ces deux orientations, d'une part l'exigence de la connaissance. Et ce que je veux dire par là, là aussi un exemple sera plus parlant qu'un long, une longue tirade, dans le domaine des agricultures alternatives. En quoi consiste je schématise évidemment l'excès, mais il y en a de multiples sortes, mais une agriculture alternative, je prends l'exemple de l'agroforesterie ou de la permaculture, va consister à s'appuyer sur une connaissance extrêmement précise des interactions entre espèces, de la vie microbienne et mycélienne dans les sols, et qui a des fonctions considérables d'aération des sols, transformation de la matière azotée, etc. Donc, qui rend des services considérables et qui peuvent être détournés, ou en tout cas sur lesquels des pratiques agricoles peuvent s'appuyer. Mais ça implique, bien sûr, une connaissance approfondie de ces interactions biologiques, de ces opérations dans l'être, comme disait Simondon. C'est-à-dire que le sol n'est pas une masse inerte sur laquelle on va pouvoir faire pousser des choses, à condition d'y apporter des intrants industriels extérieurement. Mais c'est une structure hautement organisée qui comporte une vie très complexe et qui rend des services. Et donc c'est par la connaissance que l'on peut développer des pratiques justement qui vont trouver à s'insérer beaucoup plus souplement dans les conditions du milieu. On peut prendre un exemple aussi dans le domaine humain. Je disais tout à l'heure que par l'enquête de type ethnographique, un ingénieur peut être amené à concevoir des dispositifs qui vont trouver à s'insérer souplement dans des pratiques professionnelles existantes, en les supplémentant, mais sans menacer justement ce qui a de la valeur. Bon. Donc la recherche de la connaissance, quelle qu'elle soit. Et puis l'autre dimension, c'est effectivement je résume par l'idée d'explication aussi. C'est-à-dire que quand un dispositif est amené à produire des effets dans un milieu, le concepteur fait un certain nombre de choix. Comment on amène l'explication ? C'est une vieille problématique. C'est une vieille problématique que Platon avait identifiée concernant la reine de toutes les techniques, la reine de toutes les technailles, à savoir la médecine. Puisque Platon explique très bien dans les lois l'homme libre, bon, bien sûr, il faut soigner l'esclave, mais soigner l'esclave, c'est s'occuper d'un instrument. C'est-à-dire, on va, un instrument, il faut s'en occuper, il faut en prendre soin, bien sûr. Mais ce soin-là ne comporte aucune dimension morale. Il n'y a pas besoin d'expliquer à l'esclave les raisons pour lesquelles on lui administre ce traitement et pourquoi il doit être compliant, comme on dit aujourd'hui. Alors qu'à l'homme libre, il faut lui expliquer. Donc cette exigence, d'abord de rendre raison, de rationalité, de rendre raison du pourquoi le traitement est choisi. Ça, c'est pourquoi le médecin est un technicien. C'est parce qu'il est capable de rendre raison. Le vrai technicien chez Platon, ce n'est pas celui qui a un tour de main, c'est celui qui est capable de rendre raison de ce qu'il fait, versus celui qui est incapable de rendre raison des effets qu'il produit. Comme le cuisinier, comme le peintre, que Platon considère comme dépourvu de technique jusqu'à un certain point. Bon. Donc rendre raison et expliquer le pourquoi des choses. La relation morale passe par l'explication. Et qu'on retrouve aujourd'hui à 2500 ans de distance dans les problématiques de l'explicabilité des IA, qui est une problématique qui là aussi amènerait d'introduire des différences entre l'explicabilité, l'intelligibilité, l'appropriabilité. Parce que rendre explicable le fonctionnement d'un réseau de neurones, c'est pas forcément rendre service à l'usager final, qui va être par exemple un clinicien qui ne comprend... Enfin, une fois qu'on lui aura expliqué le pourquoi, la raison pour laquelle le réseau de neurones aboutit à tel résultat, n'est pas forcément opérationnalisable dans une pratique médicale. Il faut que ça fasse sens d'un point de vue médical, biologique, etc. Donc, voilà, l'explicabilité, l'intelligibilité, l'appropriabilité, parce qu'une fois qu'on a rendu... le résultat intelligible par le professionnel en termes médical ou biologique, encore faut-il que ça s'insère dans une pratique professionnelle, qu'elle soit de diagnostic, de pronostic. Donc toutes ces notions-là doivent être soigneusement distinguées et relèvent cette grande question de l'explication, de la capacité à rendre raison de ce que l'on fait et à justifier les choix de conception.
Ok, est-ce que tu veux rajouter peut-être un tout petit mot sur le deuxième point, la question de la sensibilité au milieu, hein. Je pense que c'est aussi assez inclus, enfin c'est en lien direct avec ce que tu nous as dit, mais peut-être en forme de conclusion, hein, revenir sur cette importance de s'insérer dans la nature. Tu en as parlé avec l'exemple de l'agroécologie au départ, hein. Je pense que ça montrait bien comment la connaissance permet de s'insérer dans la nature et de considérer les utilisateurs. Pareil, tu en as parlé avec ton exemple de la relation qu'il peut y avoir entre, par exemple, des concepteurs de techniques numériques et des médecins. Voilà, peut-être juste en te donner un dernier mot en guise de conclusion autour de ça.
Oui, alors, en deux mots, je pense que cette question de l'insertion, on la pose, là, on vient d'en débattre, enfin, d'en discuter sur un plan professionnel, en termes d'ingénierie, mais c'est une question anthropologique. Il me semble que c'est une question anthropologique qui amène à, dans la suite de toute une tradition de philosophie française contemporaine et de philosophie de la technique qui notamment trouve son inspiration chez Bergson, qui considère la technique comme un mode d'action du vivant humain sur la matière. C'est comment par la technique l'humain s'insère opérativement parlant, par des opérations dans les opérations naturelles. Comment ces opérations humaines s'articulent à des opérations naturelles. Typiquement, on parlait d'agroforesterie, de permaculture, enfin de ces agricultures alternatives, c'est comment les opérations techniques humaines, les opérations agraires, enfin agricoles, peuvent s'articuler à des opérations accomplies, effectuées par des non-vivants, par des non-humains, par des vivants non-humains. Comment les opérations de la bactérie, des micro-organismes, des champignons trouvent une traduction opératoire dans un schéma technologique général. Et je dis bien technologique, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, la technologie, le discours rationnel, le discours capable de rendre raison des opérations techniques et de leurs effets. Et comment intégrer dans un savoir technologique les opérations effectuées par ces micro-organismes pour les rendre homogènes aux opérations techniques humaines. Donc, je pense que la question du milieu, de l'insertion du milieu, ouvre sur une question anthropologique qui est tout simplement notre mode d'existence en tant qu'être vivant en confrontation à la matière par le biais des techniques. Et avec deux grandes options, bien sûr, si on veut là aussi aller un petit peu, on veut schématiser, une option qui consiste à dire que la vocation de l'humain est d'agir sur la matière d'un point de vue totalement extérieur à elle, et de la reconfigurer en fonction de logique qui sont les siennes, peut-être, qui sont des logiques industrielles, des logiques techniques, mais qui n'ont absolument, qui sont totalement étrangères, hétérogènes par rapport aux logiques opératoires à l'œuvre dans la matière. Je reprends l'exemple du sol et de toute la vie qu'il abrite, versus donc une posture anthropologique qui consiste à penser non pas en termes d'intervention d'un point de vue extérieur, mais d'un point de vue au contraire interne. C'est la matière qui nous façonne, en quelque sorte. C'est la matière qui nous commande. Et on ne peut pas, ce que disaient très très bien les Grecs d'ailleurs, la matière a ses formes implicites qui nous contraignent à certaines opérations et donc à une attitude de soin à l'égard de ces opérations, si on veut que ça marche, hein, tout simplement.
Merci beaucoup Xavier pour cette seconde émission autour de ton livre Du soin dans la technique. Alors après avoir exploré justement avec Xavier quelques pistes pour eh bien, réarticuler la technique et la vie et puis remettre du soin dans la technique, notamment en tant qu'ingénieur et enquêteur des milieux dans lesquels les dispositifs techniques produisent leurs effets complexes et incertains mais bien réels, eh bien, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une troisième et dernière partie de cette trilogie sur l'ouvrage du soin dans la technique. On fera alors le lien entre voilà, les concepts que l'on croise dans cet ouvrage et puis le cours l'eau-technicisation et numérique que l'on anime avec Stéphane dans différents contextes et notamment à l'UTC où on étudie la l'eau-technicisation dans le domaine du numérique. Voilà, bonne journée à toutes et à tous. Retrouvez l'émission sur podcast.picassoft.net et à bientôt.